Bonsoir à tous. Je ne ferai pas un exposé d'abord parce que l'heure tourne. Je vais me caler un petit peu sur ce qu'a dit Antoine Frérot, qui me paraît effectivement très important. La première bataille pour moi, mais vraiment une bataille considérable, je rebondirai par rapport à cette question de l'aveuglement, du dogme, c'est la bataille de la, je vais la résumer comme ça, de la nobélisation d'une autre école économique. C'est-à-dire qu'en gros, il faut créer l'école de Paris. Moi, je suis, pardonnez-moi, française, mais je suis tout à fait d'accord pour que ce soit l'école de Bruxelles. Mais vous avez compris l'enjeu. L'enjeu, c'est de définitivement clore l'acte de l'école de Chicago, qui a été nobélisé, archi-nobélisé, et qui a fait un désastre à la fois dans la conception de ce qu'est une entreprise, dans la captation de ce qu'est l'intérêt public, et dans la déviation du politique et dans son asservissement, d'une certaine manière, à l'économie dérégulée, qui fait qu'il est temps que... C'est pour ça que c'est une bataille scientifique qui doit être absolument faite. Et les entreprises ont totalement leur place dans cette bataille. Pourquoi? Parce que qui a financé l'école de Chicago? Ce n'est pas les universités elles-mêmes, ce sont les grandes fondations privées, les grandes entreprises. C'est tout cet argent qui est allé à un moment donné aussi créer des bourses, créer des programmes. Et je peux refaire ici la manière dont s'est construite l'école de Chicago, mais voilà. Donc, véritablement, cette alliance nouvelle, cette légitimation d'une autre approche économique, elle doit se faire et elle doit se faire au travers de chaires communes, de masters communs, de thésards qui travaillent ensemble, dans le but à un moment donné, effectivement, parce que ce sont les... faut travailler aussi avec les symboles du moment, et les symboles du moment, ben, c'est les nobélisations. Donc, de fait, il faut hélas viser cela. Donc, ça paraît anecdotique, ça ne l'est pas du tout, parce qu'effectivement, on est face à du dogme. On est face à ce qui est considéré comme un axiome et qui est une aporie et qui est une folie. Et donc, on ne gagnera pas sans en passer, pas, on ne gagnera pas simplement en disant que éthiquement, c'est mieux. C'est pas du tout ça. D'abord, il faudra montrer à quel point c'est la science qui valide cela. Et puis, par ailleurs, par rapport à la question éthique, hélas, les gens, les individus comprennent pas que l'éthique est une épistémologie. L'éthique n'a rien d'une marge. L'éthique est une intelligence. Sens de l'intelligare, de faire lien, mais c'est une véritable compréhension stratégique des situations. Et généralement, hélas, on en fait un complément superfétatoire, on en fait de la moraline, comme disait Nietzsche, alors que c'est véritablement de l'épistémologie et c'est au contraire très très proche des approches cognitives. Et ça, bon. Ça, hélas, ce n'est pas le cas. Bon, donc sa première bataille, bataille scientifique, alliance de l'université et de l'entreprise sur cette question-là pour une nobélisation rapide, si j'ose dire. Deuxième principe qui est essentiel, c'est le principe d'équilibre, ça a été dit, de la représentation des parties prenantes et de leur accès à une certaine forme de décision. Donc là aussi, il faut voir. Comment on ajuste, comment on trouve la juste pondération, mais c'est vrai que ça amène une totale réforme du conseil d'administration et on en est encore extraordinairement loin. Donc ça, c'est un enjeu considérable. L'enjeu considérable, c'est vrai pour moi, c'est un principe de commensurabilité. Pas comment le dire, principe de proportionnalité à l'intérieur de l'entreprise, notamment au niveau des rémunérations. Alors, je ne suis pas comme Gaël qui a définitivement abandonné, comment dire, la matérialité de ce monde. Je parle de Gaël Giraud, je rigole en disant cela, mais je veux dire que bon, un facteur 12, est quand même un facteur très serré. Donc facteur 12, je ne valide pas le facteur 12, mais en revanche je valide le principe de commensurabilité parce qu'il est absolument nécessaire qu'il y ait un principe d'équité de la chaîne de ceux qui sont à l'intérieur de l'entreprise. Je crois qu'il y a certains biens, on l'a dit là aussi, il y a certains biens qui sont des biens ressentis comme publics. Alors c'est très compliqué la notion de biens publics mondiaux. Je crois qu'il y a effectivement ce qu'on appelle la caractère non strictement marchand de certains biens et que de fait, il n'y a pas de neutralité de l'objet de l'entreprise. Ce n'est pas parce que vous devenez un objet de l'entreprise que soudain, c'est un objet neutre. Non. Et ça, de fait, il est important que tout objet, à un moment donné, un certain type d'objet peut avoir en lui-même des conditionnalités que d'autres objets n'ont pas. Et bien évidemment, l'eau, prenons le cas de l'eau, c'est évidemment, mais c'est le cas de l'éducation, c'est le cas de la santé quand on va un peu vite. Bon, mais ce sont des biens qui devraient, ce sont des objets d'entreprise possibles, mais ce sont des objets qui devraient par eux-mêmes porter toute une charte de conditionnalité, parce qu'on ne peut pas capter, confisquer la marchandisation de biens qui sont des biens vitaux, tout simplement. Et là, je pense qu'on a tout de même oublié cette problématique de la non-neutralité de l'objet de l'entreprise. Vous l'avez dit très justement, et ça aussi, les actionnaires ont été grandioses là-dessus. Ils nous ont fait croire qu'ils avaient le monopole du risque. Et de fait, c'est cette définition plurielle du risque, ça c'est très certain. Et ce problème, je dirais aujourd'hui, d'ajuster le pouvoir de chacun. D'abord, un, de faire monter en gamme, si j'ose dire, la présence des différentes parties prenantes en termes de risque. Et donc de rappeler qu'elles-mêmes participent très largement au risque dans l'entreprise. Et donc de les positionner par rapport à ça, ça c'est très certain. Mais également de la volatilité de l'engagement, ce que vous appelez la durée, de fait, qui doit venir également pondérer ce risque-là. Et on ajuste en fonction de cette volatilité de l'engagement et du risque, on ajuste l'accès à la décision. Moi, je sais dire qu'on crée une vraie cohérence entre le risque, l'engagement à longue durée et l'accès à la décision dans l'entreprise. En tout cas, l'accès à la décision dans l'entreprise devrait être fondamentalement pondéré par la question de l'engagement et de la durée des différentes parties prenantes. Vous l'avez souvent dit dans vos articles, c'est la redéfinition même de la définition de l'entreprise. En tout cas, nous, en France, on a un article qui est le 1832. C'était notamment lié aux travaux de Favreau, de Gaël Giraud, on a cité Cécile Renoir, etc. Mais c'est vrai que l'article 1832 du Code civil pose une définition de l'entreprise qui fait qu'aujourd'hui, de toute façon, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est inaudible mon discours, de fait, c'est vrai, mais on pourrait même rajouter, c'est juridiquement interdit. Donc, de fait, c'est plus qu'inaudible, puisque si l'on se réfère à l'article 1832, une entreprise, elle cherche quoi ? Son profit, et c'est ça, sa finalité. Donc, de fait, quand vous êtes un patron, et que vous devez suivre le code civil, et si vous voulez rester, entre guillemets, garant de la légalité de cet article, de fait, vous ne pouvez pas faire un certain nombre d'actions. Donc là, il y a un enjeu absolument essentiel de transformation de la définition de l'entreprise, et donc c'est un enjeu constitutionnel majeur, hein, même si ça serait qu'un tout petit mot, puisqu'on, tout simplement, de positionner le profit non pas comme finalité, mais comme moyen au service de différentes choses, mais donc de conditionnaliser le profit. Donc la durabilité d'une action, parce que de fait, on sait très bien que le profit, ça permet aussi que quelque chose dure. Hein, donc, mais aux différents services sociétaux, comme on peut dire aujourd'hui, aux sociaux ou à l'utilité publique, que sais-je. Mais en tout cas, là, il y a un enjeu majeur de la redéfinition et du changement de l'article. Sur la question du rôle du dirigeant, c'est très très important, parce qu'effectivement, on voit bien que à partir du moment où le dirigeant est le mandataire caché des actionnaires, en fait, il est dirigeant de rien. Il faudrait laisser le terme de dirigeant et dire, bah, écoutez, voilà, c'est l'otage des actionnaires, otage consentant. Hein. On connaît d'ailleurs le principe de Stockholm. Et puis en plus, s'il y a rémunération, le principe de Stockholm se comprend encore mieux. Parce que, effectivement, si à partir du moment où vos ravisseurs vous donnent en plus de l'argent, comprend que d'une certaine manière on les apprécie. Bon, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que c'est vrai que là il y a un changement de compréhension de ce qu'est le leadership, parce que ça emmène le dirigeant vers plutôt un rôle d'arbitre, un rôle de garant de l'équilibre des parties prenantes. C'est assez nouveau. Ça, c'est vrai que c'est jusqu'à présent, vous l'avez dit tout à fait justement, le rôle du dirigeant était plus clairement finalisé au profit. Voilà, sur la question du profit. Et là, tout d'un coup, ça devient quelque chose de plus ouvert, mais d'une certaine manière qui, précisément, est tout à fait intéressant lorsqu'on défend la notion de dirigeant. Parce qu'il y a une certaine forme aussi, à partir du moment où il y a un équilibre des parties, vous récupérez de l'indépendance aussi. Vous êtes moins dans le fait d'être asservi à telle ou telle partie prenante. C'est pour ça que c'est très important, la question des contre-pouvoirs, parce qu'il n'est absolument pas viable que le dirigeant demain soit asservi à une autre partie prenante, puisque le même système d'abus se reproduirait. Donc, mais là, tout d'un coup, on a au contraire la revalorisation du rôle de dirigeant, et qui pour moi est tout à fait importante, parce que précisément il peut être le garant de certaines formes d'arbitrage. Donc voilà un petit peu des réflexions. Juste pour terminer, je pense effectivement que le rôle du dirigeant, la parole du dirigeant et du grand dirigeant n'est pas tout à fait une parole neutre. Elle a un rôle de prescription absolument important. Et je veux bien entendre qu'elle est inaudible internos, c'est-à-dire dans son territoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on est un grand dirigeant, on traverse et on va bien au-delà de son territoire. Et c'est là où les tiers, entre guillemets, peuvent rentrer en jeu et être convoqués dans une stratégie de transformation interne de l'entreprise qui ne peut pas se faire, parfois, c'est bien logique, que par l'intérieur. Elle se fait aussi par l'extérieur. Et c'est là où le rôle des médias, le rôle de l'opinion publique, le rôle des politiques, le rôle des universitaires, le rôle des ONG, le rôle des autres patrons, par rivalité mimétique même, peut-être, etc., joue. Et là, il y a certainement aussi à développer beaucoup plus d'analyse de ce que l'on peut faire avec l'extérieur pour faire changer l'intérieur et pour renverser le rapport de force, parce que j'ai bien conscience qu'il peut être compliqué. Voilà, voilà un petit peu. Et juste pour clore, je crois que cette réflexion, elle est fondamentale. On parle beaucoup de populisme, de désaveu du politique, dans la société française, dans la société même européenne, pas spécifiquement française, de sentiments de déficit de confiance, où les citoyens se sentent à la fois lésés par leur représentation politique, mais il y a un autre grand contrat de confiance qui s'est brisé depuis surtout une vingtaine d'années. Et cet autre grand contrat de confiance, c'est celui qui était fait avec l'entreprise. Et donc, je crois qu'on ne comprend pas la dimension politique essentielle. C'est qu'il y avait un immense contrat de confiance avec cette idée que le travail, entre guillemets, n'était pas que aliénant. Il y avait aussi une dimension d'émancipation et une dimension de construction de mon autonomisation. Et l'entreprise, normalement, était garante aussi de cela. Force est de reconnaître qu'aujourd'hui, elle l'est moins, beaucoup moins. Et que là aussi... voilà, je crois qu'il y a un déficit de confiance qu'il faut affronter. Et bien sûr, le dirigeant a un rôle clé dans cette histoire-là. Et c'est vrai que tu avais cité tout à l'heure, Daniel, le petit laïus sur le fait que je pense qu'une entreprise est un cœur vivant de la démocratie. Sans être elle-même strictement une démocratie, mais elle est à l'intérieur de la démocratie. Donc, de fait, elle fonctionne aussi avec ces règles-là. Mais c'est vrai qu'une entreprise, c'est une possibilité de circuit court tout de même. C'est-à-dire que dans ces problématiques d'accélération de l'histoire... De défis de la mondialisation qui sont considérables, tout d'un coup on a là un espace laborantin qui est tout de même assez étonnant, et qui plus est en plus quand cette entreprise est multinationale, il y a un phénomène de pollinisation éthique qui est aussi possible. C'est-à-dire que demain les agents normatifs éthiques peuvent être les entreprises, par le fait de faire monter en gamme leurs normes internes, etc., bien évidemment, et beaucoup plus facilement que la transformation directe sur les États. Ça sera de quelque chose qui... Et ça, les multinationales, elles ont un rôle tout à fait clé, où les entreprises qui sont implantées sur différents territoires, elles ont un rôle tout à fait déterminant. Donc voilà un petit peu quelques idées, mais qui sont totalement complémentaires avec ce qui a été dit précédemment. Puis je laisse le temps maintenant au débat.
Merci beaucoup, Cynthia. Oui, tu as raison, c'est pour ça de l'accueillir. Et là aussi, merci, c'est comme pour Antoine, des bois très concrètes qui sont proposées là, dans les deux cas, d'ordre à des niveaux différents, mais des axes tout à fait concrets. Nous savons ce que nous avons à faire demain matin.